Alors, j'ai entendu dire que beaucoup d'entre vous, vous avez passé une très bonne après-midi hier au soleil à Toulouse, donc je m'en réjouis. Alors, on va reprendre directement par peut-être avant d'aborder les méditations. Déjà, il y a quelqu'un qui demande que je reprécise ce que sont les lectures là demandées. Et donc qui demande une participation de 8 euros. C'est pour chaque module au niveau du FPMT. Il y a plusieurs petits textes qui sont proposés. Souvent donc des textes d'enseignement, de petites interventions de Sassante Lhayama, de la Mazopa ou de la Mayeshe. Là beaucoup je pense par rapport à ce module là de la Mazopa Rinpoche. Et donc pour les gens qui, par rapport à la découverte du bouddhisme, voudraient avoir une étude relativement complète, donc approfondir avec ces lectures, ensuite aussi qui voudraient faire un petit peu toutes les méditations, et puis rendre le devoir, le petit devoir, le petit questionnaire qu'on fait pour la maison, à ce moment-là, si toutes les conditions sont réunies, ils peuvent faire valider leur... ils peuvent faire valider le module. Après, à savoir aussi que ces lectures demandées, donc vous pouvez les avoir sur papier dur, là, et à ce moment-là, il y a la feuille sur la table à l'entrée, dans la gompa, juste là. Et vous mettez votre nom, et puis aujourd'hui, Françoise va faire les photocopies, je pense peut-être dans l'après-midi, donc sûrement soit avant 3h ou alors à 5h en sortant, vous aurez les textes. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est vous pouvez les avoir sous forme digitale en écrivant un mail à Françoise. Donc vous trouvez son adresse dans sur la feuille que je visualise très très bien, que j'ai trouvé sur cette feuille là les lectures donc qui se trouvent dans le petit fascicule qui est disponible pour tout le monde là par rapport au module, parce qu'on va utiliser pas mal de choses qui se trouvent dedans. Vous voyez lecture du module sous forme digitale, écrivez à françoisemajesté@free.fr. donc là vous pouvez lui demander directement sous forme digitale et vous le lisez après directement sur votre ordinateur, sur votre e-reader, votre iPad, votre je sais pas quoi, votre machin, ou alors vous l'imprimez aussi chez vous, il y a cette possibilité. Voilà, ensuite petit rappel par rapport au micro qui je ne sais pas où il se trouve, c'est Alexis qui l'a, donc je peux pas faire la démonstration. Vous visualisez, j'ai le micro dans la main là, et au milieu du micro il y a le petit bouton, forte pression sur le petit bouton et la lumière devient verte. Si vous voulez après le mettre en attente, petite pression et devient orange. Pour s'il est orange et que vous voulez parler, petite pression et devient vert. Si il devient rouge, là, vous regardez Alexis et vous lui jetez le micro, qu'il attrape en plein vol et puis il change la pile et puis il vous le rend. Après, donc toujours il y a la caméra. Donc pendant la session, si vous pouvez éviter juste de passer dans l'allée centrale, passez plutôt sur les côtés, puis quand vous passez juste devant la caméra, essayez de vous mettre le plus à genoux possible. Si vous n'y arrivez pas parce que vous avez des courbatures, des rhumatismes, etc., ben, souriez à la caméra, faites un coucou, dites excusez-moi en passant. Donc, allez, on va reprendre avec la méditation. La question, Gérard. Oui. Donc, je vais le dire maintenant, mais je vais essayer de le redire après, parce que sinon vous risquez d'oublier. Les gens qui ont rendu les devoirs hier, pas ceux qui ont rendu aujourd'hui, hein. Donc tous les gens qui ont rendu le devoir hier, sauf Romain, vous pouvez venir les chercher, je les ai relus. Mais Romain, comme il a écrit un peu plus, il faut que je vérifie tout bien tout ce qu'il a écrit. Donc il me faudra un peu plus de temps. Donc à la pause ou à la pause déjeuner ou à 5 heures, vous pouvez venir les chercher. Puis les gens qui n'ont pas récupéré leurs devoirs déjà de la dernière fois, qui ne sont pas venus chercher hier, venez les chercher aussi à ce moment-là. Allez, la méditation. Donc on commence par méditation sur le souffle. Donc encore une fois, cette méditation sur le souffle est extrêmement efficace par rapport aux perturbations mentales. Si on est sous l'emprise d'une perturbation mentale, un petit truc tout bête pour commencer à désamorcer ce processus négatif, c'est se concentrer sur le souffle, parce qu'automatiquement on va arrêter d'être concentré sur l'aspect plaisant qui entraîne l'attachement, ou l'aspect déplaisant qui entraîne l'aversion. Donc on recrée une neutralité au niveau de l'esprit. Donc c'est une des premières étapes un petit peu pour arriver à maîtriser les perturbations mentales. Donc la plupart d'entre vous, ben, vous pouvez commencer directement. Au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas cette méditation, une version toute simple, vous vous concentrez sur le point à l'entrée des narines et vous observez les sensations que vous y éprouvez lors de l'inspiration et de l'expiration. Encore une fois, essayez d'être bien présent, vigilant à ce qui se passe, et si votre esprit est distrait, se met à penser à autre chose, ou s'il manque un petit peu de clarté, etc. Donc s'il est distrait, ramenez bien sur l'objet de concentration. Si vous êtes concentré sur l'objet de méditation, mais qu'il commence à y avoir un petit peu une certaine manque de clarté, une petite lourdeur, etc., voyez cet aspect-là, essayez de revivifier un petit peu votre esprit par rapport à son objet de méditation. C'est parti pour 10 minutes. Puis maintenant, on génère l'attitude de compassion et d'amour bienveillant, attitude qui souhaite que tous les êtres puissent être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et qu'ils puissent tous obtenir le bonheur, le vrai bonheur, et les causes de ce bonheur. Et on maintient cette attitude donc bienveillante et de compassion pendant 5 très bonnes minutes. Et on prend le livre de prière à la page 73. Et c'est très bon signe parce que avant que le 73 arrive à mon esprit, il y a le 73 qui arrive à l'esprit. Ça veut dire que je m'acclimate bien à ma nouvelle vie en Suisse. Donc on la lit en français. Si vous voulez la lire avec moi, vous êtes les bienvenus. Si vous préférez pas, ben détendez-vous tout simplement. C'est bon, vous y êtes tous ? Ouais. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je vous rends hommage. Vous êtes libéré, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et à la page 79, le Sutra du cœur en français. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajakriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadviputra. Shariputra, les fils ou les filles de lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience, sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement, ni mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra à la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Il dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras, des Gandharvas, fut rempli de joie et louait les paroles du Bhagavan. Et en bas de la page 82, la prière, la Dakini au visage de lion, je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois joyaux qui demeurent dans la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara tsachana samaya père, akasamara tsachana Akasamara tsachanara samaya pe tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Et à la page 89, la prière de refuge, deux fois en tibétain et une fois en français.
Dala benje zangye doba jo zangye enje dan zoge janam la janjo bado danenge zoje dage chanye enge bezanange dala benje zangye doba jo.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien de tout être? Donc, juste, on fait donc les prières le matin au début de l'enseignement. La louange au Bouddha Shakyamuni, le sutra du cœur, la prière, la dakini au visage de lion, et on finit par le refuge et bodhicitta. Est-ce que quelqu'un se rappelle le pourquoi de ces prières? Pour préparer l'esprit, et plus particulièrement en fait, pourquoi le sutra du cœur? Donc là je les donne dans un ordre bien précis, le sutra du cœur, pourquoi la louange au Bouddha Shakyamuni, pourquoi ensuite le sutra du cœur suivi de la dakini au prière, la dakini au visage de lion, et enfin la prise de refuge. Le sutra du cœur, c'est un enseignement sur quoi? Sur la vacuité, sur la sagesse qui... comment développer la sagesse qui réalise la vacuité? Quelle est la source de tous nos problèmes? L'ignorance. Donc là, c'est l'enseignement justement qui permet de détruire la racine même de toutes nos souffrances. Donc voilà pourquoi, tout simplement en début, on se remémore cet enseignement qui, je vous l'accorde, est extrêmement condensé. Juste en lisant comme ça, peut-être qu'on va pas arriver à comprendre comment faire pour réaliser la vacuité. Mais ça, c'était vraiment l'enseignement quintessentiel du Bouddha par rapport à la sagesse. Donc justement, au début, on récite la louange au Bouddha Shakyamuni par respect, en fait, par admiration du fait qu'il ait enseigné cet enseignement. Ensuite, on récite la prière, la dakini au visage de lion pour écarter les obstacles qu'on pourrait rencontrer lors de notre étude, de notre pratique, etc. Et puis finalement, la prière de refuge et de bodhicitta, ben, c'est pour les gens qui ont décidé d'embrasser le chemin bouddhiste. La prière de refuge, c'est dire justement, je vais chercher la solution dans la sagesse qui réalise la vacuité, si possible cette sagesse associée à l'esprit d'éveil. Donc je m'appuie sur l'être qui a enseigné de manière parfaite comment développer cette sagesse, cet esprit d'éveil, le Bouddha, et je m'appuie sur les êtres qui réalisent en eux cet aspect de sagesse, cet aspect de bienveillance, une bodhicitta. Donc on prend refuge dans le Bouddha, Dharma et la Sangha. Par rapport aux lectures conseillées, je vous conseille très très vivement, par rapport à ce sujet, le livre donc qui est mentionné dans toujours la fiche de participation, la troisième lecture, La Voix de la Lumière de sa sainteté le Dalai Lama, donc aux éditions J'ai lu, donc une édition d'un livre donc qui fait que le prix est très accessible, 6,50 € ou 70, quelque chose comme ça. Et donc je vous conseille très très vivement le chapitre 3, la page 57 à 83, parce que sa sainteté le Dalai Lama a une présentation qui, par rapport à mon analyse, mon expérience, convient extrêmement bien aux occidentaux, mais que cette présentation, elle est pas du tout traditionnelle comparée à la manière dont c'est généralement présenté dans les grands lamrim tibétain. Donc je ne peux que vous encourager encore et encore à lire ce passage. Après, dans d'autres textes, sa sainteté fait parfois un petit peu des petits commentaires, mais donc c'est là que j'en ai trouvé le plus, un petit peu. Chapitre 3, page 57 à 83, aux éditions J'ai lu, 6,70 €, La Voix de la Lumière de sa sainteté, le Dalai Lama. Alors, il n'y en a que 3 à la boutique. Donc après, je pense que Clotilde va les recommander, donc si vous pouvez attendre un petit peu, sinon sans aucune difficulté vous les trouvez sur internet, sur les plateformes comme Amazon, etc. C'est fort possible aussi peut-être à la Fnac, donc vous aurez aucun moyen de vous le procurer. Après, j'ai pas regardé s'il y en a, mais il y en a peut-être, c'est fort possible, à la bibliothèque. Donc vous regardez dans la section du Dalai Lama, quand vous rentrez dans la bibliothèque, c'est l'armoire juste en face, et je crois que c'est, si je ne m'abuse, tous les livres qui sont plutôt en haut avec un petit scotch de couleur violette. D'accord? Donc vous regardez un petit bouquin rouge, grand comme ça, La Voix de la Lumière. Après, donc juste puisque j'ai abordé le sujet, les lectures du module, c'est des textes essentiellement des textes d'enseignement de Lama Zopa Rinpoche qui lui présente donc de manière très très traditionnelle ce sujet, la dévotion au maître traditionnelle d'un point de vue tibétain, et il la présente par rapport à la relation avec un maître au niveau des tantras. Et en Occident, c'est peut-être très peu adapté et ça peut être source de très très grands problèmes. Donc lisez ça, mais gardez bien à l'esprit ce que je vous dis là maintenant, et puis peut-être que vous trouverez que justement la présentation que j'en fais est bien différente que celle de Lama Zopa Rinpoche. Donc comme ça vous avez un très grand enrichissement, différents regards qui sont pas contradictoires, mais je pense qu'ils correspondent vraiment à différents niveaux de pratique. Okay. Et donc traditionnellement les Tibétains mettent à le niveau de pratique la plus élevée par rapport à ce sujet, ils préparent déjà l'esprit pour avoir une relation au niveau du tantra. Tout petit récapitulatif de ce que nous avons fait hier. Nous nous sommes posé la question par rapport au sujet, le maître spirituel, pourquoi avons-nous besoin d'un maître spirituel? Donc hier on est bien rentré dans les détails, vous avez eu l'impression qu'en fait même on n'a absolument pas touché encore le sujet du doigt, donc on n'y revient pas. Donc après on a dit, deuxième point qu'on a abordé, c'est comment choisir un maître, et on a commencé à voir que avant de choisir un maître, d'une certaine manière dans le bouddhisme, on va prendre un maître à quel moment, à votre avis? Quand on se sent prêt. C'est même pas quand on se sent prêt, c'est quand on est prêt. Il faudrait mieux, parce que des fois on se sent prêt mais on l'est peut-être pas. Donc quand on se sent prêt, quand on est prêt, quand est-ce qu'on est prêt pour prendre un maître? Et il faut avoir pris refuge. Non, ben justement, quand tu prends refuge, la personne qui te donne refuge, tu commences à rentrer dans un des niveaux de relation de maître à disciple. Okay? Donc là, en fait, tu me donnes la réponse quand même, c'est à partir de quel moment on va avoir vraiment besoin d'un maître, la prise de refuge. À partir du moment, entre guillemets, où on veut devenir bouddhiste, tout simplement. Donc hier, on a vu que l'étape extrêmement importante, avant de faire ça, c'est de bien regarder qu'est-ce que le bouddhisme. Donc, d'avoir une compréhension claire de un petit peu toutes les étapes, au niveau par exemple, surtout des sutras, de ce qu'est le bouddhisme. Et puis après, par rapport à notre problématique, on va voir est-ce qu'effectivement le bouddhisme peut répondre à mes problèmes. D'accord. Et donc dans ce contexte, hier on a parlé de professeur bouddhiste, quelqu'un qui va faire juste une présentation, mais à un niveau essentiellement académique, on pourrait presque dire intellectuel, de ce qu'est le bouddhisme. Okay. Ensuite on a parlé d'un instructeur, on peut dire ça en français, un instructeur bouddhiste du dharma, pardon. Donc là c'est des traductions que je fais par rapport à la présentation, donc je vous ai dit hier, de ce monsieur, ce grand érudit occidental Alexander Berzin, qui a écrit un livre donc qui est paru en anglais, je pense en allemand sûrement, en français je sais pas. Vous pouvez chercher Alexander Berzin. Puis si vous voyez un truc avec un titre, la relation avec le maître à disciple, c'est que c'est ce livre-là. Donc l'instructeur du dharma, qu'est-ce qu'il fait? En plus de présenter donc un niveau académique, intellectuel, il rajoute un aspect, vous vous rappelez lequel? Il partage aussi son expérience. Et ensuite, un troisième niveau, l'entraîneur au niveau de la méditation et du rituel. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peu nous expliquer comment méditer, si on va dans un centre, etc. Un petit peu nous expliquer de manière superficielle un petit peu tous les rituels. Donc, ces trois niveaux de relation entre la personne qui présente et qui écoute sont des simples relations humaines et absolument pas encore dans le contexte de maître à disciple, d'accord? Donc ce genre de relation, il faut vraiment s'appuyer dessus, puisqu'on va voir qu'après, quand on veut passer à l'étape suivante, par exemple, je veux devenir bouddhiste, parce que j'ai vraiment regardé ce qu'était le bouddhisme, ce qu'il en retournait, etc. Et après analyse, effectivement, ça va vraiment me convenir. Donc je veux devenir bouddhiste. Par exemple, je veux prendre refuge. Par exemple, je veux prendre des vœux de fidèle laïc, donc le vœu de ne pas tuer, par exemple. Ou je veux aussi prendre le vœu de ne pas voler. Je veux aussi, par exemple, prendre le vœu de ne pas commettre de mes conduites sexuelles. Ou juste de ne pas voler. Ou juste de ne pas une conduite sexuelle. Le vœu de ne pas mentir. Le vœu de ne pas prendre d'intoxicants. Okay? Là, pour la prise de refuge et pour la prise de ces vœux, je vais devoir dépendre donc d'une personne qui va me transmettre la prise de refuge, qui va me transmettre ses vœux. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, la personne, elle va devoir avoir des qualifications. Donc ça, c'est au niveau des lamrim, etc. Généralement, on ne trouve pas les qualifications pour un maître qu'on appelle donc un maître au niveau du Hinayana, du petit véhicule. la personne qui donne le refuge, qui donne les vœux de fidèle laïque, la personne qui donne les vœux de moine, de nonne. Alors, si vous voulez les retenir, je vous conseille de les marquer. La première qualité, c'est qu'il doit avoir une moralité parfaite. C'est-à-dire qu'il doit suivre vraiment l'éthique. Il doit avoir un mode de conduite, on pourrait dire, irréprochable. Et donc, c'est avant tout, par exemple, vraiment essayer de suivre à la perfection ses 5 vœux de fidèle laïque, par exemple. Il doit s'évertuer à, on pourrait dire essentiellement déjà, s'abstenir des 3 méconduites au niveau du corps et de la parole. Okay. Ensuite, il doit très bien connaître le Vinaya. Qu'est-ce que c'est que le Vinaya ? C'est les règles monastiques ou à un niveau plus bas. Tout simplement, il doit très bien connaître le mécanisme de la loi de cause à effet. Qu'est-ce qui est à abandonner ? Qu'est-ce qui est à cultiver au niveau des actions du corps et de la parole ? Ensuite, il doit avoir la compassion à l'égard des personnes malades. Il doit avoir des compagnons qui sont nobles. Qu'est-ce que c'est que des compagnons qui sont nobles ? C'est des personnes qui, eux aussi, ont une attitude, une conduite de vie belle, très belle, irréprochable, basée sur la moralité. Ensuite, il doit s'évertuer, il doit s'entraîner à aider les autres au moyen d'offrandes spirituelles et, si possible aussi, matérielles. Et puis, la dernière, mais pas la moindre, il doit être capable de donner les conseils au bon moment. Ça, généralement, c'est absolument pas notre spécialité, non ? Quand c'est pas notre fort, quand on connaît un petit peu du dharma, etc., donc on a l'impression qu'on a tout compris, et puis on voit quelqu'un qui a un problème, etc., et on arrive, on lui dit « Ah, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça », et puis bien souvent, quel impact ça a sur la personne ? Ça a le don de l'énerver un petit peu. Donc c'est parce que tout simplement, on ne sait pas donner le bon conseil au bon moment, sous la bonne manière. Donc là, si cette personne a toutes ses qualités, elle est vraiment apte, en fait, à devenir un maître au niveau du Hinayana, et si vraiment, par exemple, elle est versée au niveau des règles monastiques et qu'il a les niveaux d'ordination suffisantes, il peut devenir un abbé et conférer, donc après, les vœux de moine et de nonne. Après, pour conférer les vœux de laïc, la personne n'a pas forcément besoin d'être elle-même moine ou nonne, il faut qu'il possède juste ce niveau de vœux, et puis donc il ait un mode de conduite stable et pur par rapport un petit peu à ces vœux-là. Donc déjà par rapport à ce niveau, ce premier niveau, il y a des gens peut-être parmi vous qui ont pris refuge. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris refuge parmi vous ? Alexis, t'as pris refuge ? Lève la main alors. Donc il y en a quelques-uns et vous pourriez vous demander mais qu'est-ce que ça implique dans la relation en fait avec la personne qui m'a conféré le refuge ? S'il y avait des moines et des nonnes, ils pourraient s'interroger qu'est-ce que ça implique la relation qu'ils ont instaurée avec la personne qui leur a donné les vœux de leur ordination. Donc le Dalai Lama, ça malheureusement je l'ai pas trouvé dans des livres qui sont disponibles. C'est juste un polycopié d'instructions qu'il avait donné à des enseignants occidentaux qui lui ont posé des questions. Il y avait des interviews, comment on dit, pas une interview, un rendez-vous entre donc le Dalai Lama et des enseignants occidentaux. Et le Dalai Lama, donc là, très clairement, a dit à ce niveau-là, qu'est-ce que la relation implique ? Une relation d'être humain à être humain, basée sur le respect. Donc déjà, ça, ce serait bien qu'on arrive à le développer envers tout le monde. Et la personne qui donne le refuge, ou qui donne les vœux, eh ben, il devient ce qu'on appelle un ancien, donc quelqu'un avec plus d'expérience, etc., où il devient juste notre abbé, une relation complètement humaine, donc qui doit être basée au maximum sur le respect, et la personne doit être un petit peu un exemple pour nous. Donc déjà à ce niveau-là, si la personne fait quelque chose qui est contraire par rapport aux enseignements, d'une manière respectueuse de lui dire, est-ce que ce serait une faute ? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui ? Si c'est d'une manière respectueuse, et toutes les façons, la personne doit être un exemple. Elle est d'une certaine manière, on pourrait presque dire, elle doit être un peu le garant de l'éthique. Donc si son éthique dégénère, de lui faire remarquer que ça, ce n'est pas correct, donc pas avec une méchanceté intérieure, mais c'est quelque chose de très très juste. Et je vous dis ça parce que dans la manière traditionnelle tibétaine de présenter la relation du maître au disciple, très rapidement, on va nous dire qu'on doit voir toutes les actions du maître comme, Alexis, parfaite. Tiens, Alexis, t'as changé de voix. T'as une voix beaucoup plus féminine aujourd'hui. Donc comme parfaite. Et on va voir un peu plus tard que c'est en fait une porte pour beaucoup, beaucoup de problèmes, parfois même d'abus. Donc au niveau du Hinayana, au niveau donc de la prise de refuge, au niveau de la prise des vœux, like, etc., une relation complètement d'humain à être humain, basée sur le respect, basée sur la compréhension que effectivement la personne nous donne une transmission de la prise de refuge, des vœux, elle nous donne, donc elle est un exemple, elle nous donne les enseignements pour nous encourager à avoir une vie qui est toujours plus éthique. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour nous, c'est la cause de quoi ? Si on vit avec l'éthique, de bonheur, ok ? Donc même si on se place sur le par rapport au cycle des renaissances, effectivement, on va prendre des renaissances encore d'un point de vue bouddhiste, ça va être des bonnes renaissances, ok ? Donc c'est quelque chose de formidable qu'il nous donne, qui nous encourage. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que quand on prend des vœux de fidèles laïcs, là je vais faire un peu la publicité, quand on prend... Quelle différence il y a entre juste ne pas tuer et prendre le vœu de ne pas tuer et de respecter ce vœu, à votre avis? Est-ce qu'il y a une différence? Extérieurement, il n'y a pas de différence. Vous tuez pas. Effectivement, quand on prend le vœu, il y a une intention très claire, déterminée, dire « je m'abstiens de faire ça, je ne veux pas faire ça ». Si elle est basée sur la compréhension, elle dit en plus « je ne veux pas faire ça » parce qu'elle est cause de souffrance directe pour autrui. Et puis, elle est cause de souffrance pour moi-même, dans le sens que cette action est la cause qui va générer une expérience douloureuse pour moi-même par la suite. Donc, intérieurement, il y a une très grande différence entre juste ne pas tuer, parce qu'on n'a pas l'occasion ou quoi que ce soit, et vraiment intérieurement de se dire « je ne tue pas ». Ok ? La prise de vœux, qu'est-ce que c'est ? C'est un engagement sur le long terme, parce que généralement les vœux, donc il y a la possibilité de prendre les vœux juste pour une journée. Souvent, au niveau tibétain, on va prendre les vœux plutôt sur les vœux laïcs pour toute la vie. D'accord? Mais donc là, c'est, on génère l'intention de s'abstenir jusqu'à la fin, par exemple, de s'abstenir de tuer jusqu'à la fin de nos jours. Et même si consciemment, par moment, on n'a plus cette intention, de par le fait qu'on ait généré une intention très ferme à un moment, on reçoit d'une certaine manière, on prend vraiment cet engagement qui va perdurer, et chaque instant de notre vie où on maintient cet engagement, même si par moment c'est pas conscient, là il y a la création d'une énergie intérieure très très forte, très positive. D'accord? Donc c'est une très bonne chose en fait de prendre ces engagements. Et après ces engagements, il faut bien voir, est-ce que c'est une prison? Dire, ah, je peux pas tuer, je peux pas voler. Bon, donc ça, tuer, voler, on sait que c'est pas très bien. Pas d'inconduite sexuelle. En Occident, on a une mode de vie de plus en plus un petit peu libertin, ou aussi libéré, on va dire, libéré par rapport, juste même si on n'a qu'un conjoint, libéré, etc. Donc on pourrait se dire, ah, mais c'est une prison, parce que là, je vais pas pouvoir faire ce à quoi j'aspire, etc. Donc, est-ce qu'en fait, les vœux, il faut les voir comme ça? Comment il faut les voir, alors? Parce qu'on peut vraiment se dire, bah, j'ai l'interdiction de faire ça, ça, ça. Ou je m'interdis de faire ça, ça, ça. Donc, Gisèle, tu nous dis, c'est ne pas faire mal aux autres. Donc déjà, effectivement, pour beaucoup de cas de figure, c'est de ne pas faire de mal aux autres. Dans certains cas, certains te diront, bah, dans certains cas, il y a des choses qui sont considérées comme des non-vertus, mais est-ce que ça fait franchement mal à l'un ou à l'autre? Non. Alexis.
C'est une protection, pour moi et pour les autres.
Protection de quoi?
Bah, contre des souffrances futures.
Voilà. Donc là, en fait, on s'interdit pas quoi que ce soit. On se protège de créer des causes de souffrance futures pour nous-mêmes. On protège même d'une certaine manière les autres de leur générer, de leur faire subir de la souffrance. Donc, en fait, si on prend des vœux, c'est extrêmement important de cultiver ce regard, parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui peut se passer ? Avec le temps, on peut prendre des vœux avec une très très bonne motivation, une très belle intention, une très bonne compréhension, mais avec le temps, En fait, on oublie, on n'y prête plus trop attention. Donc, cette intention, cette compréhension, s'effiloche, etc., jusqu'à presque disparaître. Et à ce moment-là, peut être remplacée par « Ah, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » Et là, ça devient un poids. Okay? Donc, c'est extrêmement important, en fait, de bien essayer de conserver la compréhension de pourquoi je ne veux pas faire ça. Et c'est pas « Je m'interdis de faire ça », c'est plus « Je ne veux pas faire ça à cause des conséquences négatives pour moi-même et pour les autres. » Ok ? Donc voilà le premier niveau de la relation avec un maître. Au niveau du Hinayana, pour la prise de refuge et pour les prises de, après, vœux, les vœux, donc aussi bien laïcs que de moines, etc. Donc déjà, petite remarque comme ça en passant, et on va voir que ça va devenir, continuer à être vrai par la suite. Est-ce que il est mentionné que la personne doit avoir un titre de lama, de geshe, de tulku, de rinpoche?
Non.
On note. On passe à la suivante. Ensuite, donc, la relation suivante avec le maître, ça va être au niveau du mayana. Donc là, le maître au niveau du hinayana, la motivation qui nous pousse à suivre un petit peu les enseignements d'Hinayana, c'est quoi? C'est avoir une bonne éthique pour s'assurer de conditions futures favorables et essayer même donc après de se libérer du samsara. Donc là, il faudrait faire appel un petit peu aussi à la concentration et à la sagesse. Au niveau du Mahayana, là, on va vouloir en fait obtenir un résultat bien plus élevé qui est l'état d'omniscience. Et dans les textes, donc dans les sutras, et après dans les commentaires donnés par les grands pandites indiens, on parle de 10 qualités que doit posséder un maître. Donc là, vous pouvez économiser votre encre. Vous avez la fiche 1 de l'Amrim qui récapitule cela. Vous avez aussi une autre petite fiche séparée, les 10 qualités du maître. Vous pouvez prendre directement celle-là parce que on commence par la maître qui aurait 10 qualités, mais après peut-être c'est difficile de trouver un tel maître, donc on va essayer de trouver des maîtres au rabais. Ça la fout mal de lire comme ça. En plus c'est enregistré, c'est filmé et tout. Ben c'est un peu vrai, hein. Excusez-moi. Et puis vous avez vu Lord, c'est d'ailleurs quand je préparais le week-end avec Françoise. Je ne sais plus dans quel contexte, c'est pour les questions qui sont proposées à remplir à la maison. C'est justement, je vous demande quelles sont les qualités d'un maître. Et puis après, je dis donc maximum, intermédiaire et minimum. Et puis Françoise m'avait dit, c'est plutôt dire non, minimum, intermédiaire et maximum. Je dis non, il vaut mieux pour que tout soit auspicieux, plutôt essayer de trouver le maître le plus qualifié dès le départ. Et puis bon, si on le trouve pas, bon ok, on réduit. Et puis si on trouve toujours pas, on réduit. Et puis si on trouve pas le troisième cas de figure, là on abandonne, hein. C'est pas la peine de... Donc quelles sont ces 10 qualités? La première, un esprit contrôlé par une moralité pure. La deuxième, un esprit pacifié sans distraction grâce à la pratique de la concentration. La troisième, un esprit complètement pacifié par la sagesse discriminante. Vous avez vu, je sais bien lire, hein. Je suis fort quand même. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la personne donc qui serait un maître qualifié, il doit avoir entraîné son esprit avec les trois entraînements supérieurs. Donc montrez-moi que vous savez bien lire aussi. Quels sont les trois entraînements supérieurs? Vous savez pas bien lire parce que là il y a marqué moralité. C'est pareil, mais vous avez pas lu. Vous l'avez récité par cœur. Donc l'éthique ou la moralité, la concentration et la sagesse. Sur la base du renoncement, l'individu s'entraîne donc dans la moralité, l'éthique, et il va contrôler les aspects les plus grossiers de son esprit. En s'abstenant de tuer, etc., déjà, il va commencer à pacifier des modes de fonctionnement très très négatifs qui le poussent à faire ça. Ensuite, à l'aide de la concentration, il va pacifier les aspects grossiers des perturbations mentales. Donc il va être de manière manifeste beaucoup moins sujet à l'attachement, à l'aversion, à l'orgueil, à la jalousie, etc. de par le pouvoir de sa concentration. Enfin, il va avoir, même là dans le texte, c'est au niveau idéal, il va avoir complètement pacifié les perturbations mentales parce qu'il aura développé la sagesse à un tel niveau que cette sagesse va complètement détruire les perturbations mentales. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a un très grand contrôle au niveau de ses actions, de ses paroles, mais surtout de son esprit, et qui n'est plus sujet aux perturbations mentales. Ensuite, la quatrième, il a plus de connaissances que le disciple. Là, c'est pas vraiment important, hein, on s'en moque. Donc, genre, vous prenez un cours, vous voulez apprendre à jouer au piano, vous savez déjà un peu jouer au piano, vous allez chercher un prof qui sait encore moins, quelqu'un qui sait encore moins jouer que vous au piano, ça va pas le faire. Donc là, bien sûr, pareil, il faut que la personne ait le maximum de connaissances et beaucoup plus que celle du disciple. Donc parfois, il y a certains, petite anecdote comme ça, il y a certains maîtres qui, dans un domaine, n'ont pas forcément trop de connaissances. Dans l'ensemble, ils ont énormément de connaissances. Dans un domaine précis, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances, donc ils vont demander à un maître. Par exemple, on peut parler juste dans le développement de l'esprit d'éveil. Personne n'aurait pas toutes les instructions, etc., par rapport à ça. Par rapport à tout le reste des enseignements, il en a énormément. Il peut aller demander à un spécialiste par rapport à l'esprit d'éveil, comment faire pour développer cet esprit d'éveil, même si cette personne, d'une manière générale, elle va avoir moins de connaissances sur l'ensemble que cette personne, d'accord ? Donc, plus de connaissances que le disciple. Ensuite, quelle est la persévérance ? La persévérance à enseigner, à donner les explications, à guider les personnes, à développer en elles les qualités qui leur permettront d'atteindre ensuite l'éveil. Un trésor de connaissances scripturales, donc c'est vraiment une très très grande connaissance de tous les textes, sutras, les grands commentaires des maîtres indiens, et après peut-être aussi des commentaires des maîtres tibétains, pour pouvoir nous transmettre tout simplement toutes les techniques pour pouvoir se développer et atteindre l'éveil. Qui a réalisé l'incité, la sagesse qui perçoit la vacuité. Donc il devrait avoir cette sagesse qui réalise la vacuité, si possible, s'il l'a réalisé directement. C'est vraiment l'idéal. Sinon, au minimum, qu'il en ait vraiment une très 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 grande compréhension, un très grand vécu, même si c'est pas une réalisation intellectuelle, c'est déjà une très très grande expérience. Donc là, vous pourriez me dire déjà quelle est la différence entre la troisième et puis la septième. Un esprit complètement pacifié par la sagesse discriminante. La septième qui a réalisé l'incité, la sagesse qui perçoit la vacuité. Vous voyez une différence ? La troisième est plus grossière. Donc en fait, dans le contexte de l'école philosophique la plus élevée dans le bouddhisme tibétain, ce qu'on appelle les Madhyamika Prasangika, il n'y a pas vraiment de différence. Parce que dans la troisième, là, c'est la sagesse qui pourrait réaliser le non-soi de la personne. Okay, chez l'école philosophique la plus élevée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne, nous-mêmes, on n'existe pas de manière intrinsèque. Okay. La septième, ça voudrait dire que tous les phénomènes sont vides d'existence intrinsèque en soi. Donc là, c'est juste la base d'analyse qui est différente, soi-même ou tous les autres phénomènes. Mais ce texte, en fait, il est utilisé par aussi d'autres écoles philosophiques où il y a une distinction vraiment beaucoup plus importante entre la sagesse qui réalise le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il y a cette distinction vraiment très claire. Pour nous, par rapport à la présentation classique que vous pouvez entendre, par exemple ici, ça fait pas de différence fondamentale. Ensuite, qui est habile pour enseigner le dharma ? Donc ça, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière extrêmement important, de savoir comment présenter les choses de la manière qui convient à l'individu qui veut donc recevoir l'enseignement, parce que sinon on peut présenter les choses d'une manière extrêmement ennuyeuse ou qui ne vont absolument pas toucher l'autre, etc., ou d'une manière qui va faire que la personne ne va pas comprendre ou qui rend l'enseignement complètement inaccessible. Donc là, c'est vraiment aussi une qualité extrêmement importante qui facilitera la tâche en fait de l'étudiant. Ensuite, de l'amour et la compassion. Donc à l'égard de tous les êtres. Et là, on dans quel contexte on est ? Vous vous rappelez, c'est un maître pour quoi ça là ? Quel niveau de relation avec le maître ? Au niveau du Mahayana. Au niveau du Mahayana, qu'est-ce qu'on veut faire ? Atteindre l'éveil. Donc atteindre l'éveil, on a cet esprit d'éveil, le souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Cet esprit d'éveil, il est construit sur quoi ? L'amour et la compassion. Donc si le maître n'a pas d'amour et de compassion, ça va pas être un exemple vraiment pour nous-mêmes. Et donc cet amour et cette compassion, il va, si possible, vraiment englober absolument tous les êtres, sans la moindre distinction. Donc il est là encore construit sur la base de l'équanimité. Et qui a abandonné enfin en dernier le découragement et la paresse pour enseigner le dharma, c'est-à-dire que il est toujours prêt à venir en aide à autrui, à enseigner si donc cela est bénéfique, parce que parfois peut-être des gens vont venir demander, mais ils n'ont aucune véritable, ils n'ont pas une bonne motivation, ou ils n'ont pas une véritable disponibilité intérieure pour recevoir, ou ils demandent des choses qui ne leur sont absolument pas adaptées, etc. Donc là, si la personne refuse, c'est pas dans ce contexte-là. Mais c'est vraiment, il y a plus du tout ce sentiment intérieur de fatigue ou de oh non, là, je veux pas, etc. Non, dès quelqu'un veut vraiment sincèrement pratiquer et donc a besoin d'enseignement, la personne va être prête à partager ça. Donc si on regarde un petit peu ces 10 qualités, vous regardez personne en gros qui n'a plus vraiment plus de perturbation mentale, qui a une attitude de vie extérieure extrêmement pure, qui a une très bonne concentration, qui a un amour et une compassion à l'égard de tous les êtres, qui a donc une connaissance des textes immense, qui a abandonné tout découragement, qui a une très grande persévérance, donc encore une fois, qui aime tous les êtres, qui leur souhaite à tous le bonheur, et à tous, il ne leur souhaite pas la moindre souffrance. À qui on a affaire, là ? Un Bouddha, non ? Mais un saint qui donc peut-être même a réalisé la vacuité directement. Donc là, effectivement, un saint, un être supérieur, un Arya, parce qu'il a réalisé la vacuité directement, ou qui est proche de la réaliser, qui a vraiment une très très grande compréhension de la vacuité, qui fait que en fait il ne sera plus du tout comme nous dans un état d'être où il cristallise les choses, il donne un aspect concret aux choses, donc il est émotivement complètement assujetti par rapport à ce qu'il rencontre dans un état donc de cristallisation, il va développer après de l'attachement ou l'aversion. Non, il est dans un état de sagesse intérieure qui lui permet une certaine neutralité émotionnelle. Quand je parle de l'émotion névrotique, un petit peu, qui est construite sur les perturbations mentales. D'accord? Donc, il est dans un état de sagesse qui permet de couper la racine même de toutes les souffrances, etc. Même face à une expérience de souffrance, il va absolument pas cristalliser cette expérience de souffrance pour lui-même. Il va comprendre qu'il n'y a aucune réalité substantielle intrinsèque derrière tout ça. Il va avoir une perception extrêmement légère du monde, il va avoir en plus donc de cette sagesse un regard qui vraiment tient compte de tous les êtres et vraiment veut une seule chose pour eux, le bonheur, les causes du bonheur, qu'ils soient libres de la souffrance, des causes de la souffrance, et d'une certaine manière, il va tout faire pour, si il y a ouverture chez eux, intérêt chez eux, leur donner les moyens d'obtenir ce bonheur et d'abandonner la souffrance. Donc effectivement, on peut vraiment dire que là, on parle d'un être exceptionnel, d'un saint. D'accord ? Donc, le Dalai Lama dit, en tant qu'étudiant, quel est notre boulot à nous ? Justement, je crois que c'est dans le passage que vous conseillez dans le livre. Écoutez, juste toute petite, là, ça, je boum dans ma tête. Au niveau du livre, dans la bibliothèque, regardez aussi, parce que l'édition J'ai lu, c'est une réédition. Donc chez un différent éditeur. Avant, il était édité à la presse du Châtelet, qui est un bouquin beaucoup plus haut, blanc, mais qui a le même titre. Donc, La Voix de la Lumière, toujours. Donc c'est juste, peut-être qu'ils l'ont sous la forme aussi, la presse du Châtelet, donc ce serait dommage que, si vous voulez l'emprunter, vous passiez à côté, parce que vous dites, ah non, c'est pas le bon. Donc après le Dalai Lama, je reviens... Il nous dit c'est quoi notre boulot en tant qu'étudiant ? Étudier, mettre en pratique, analyser, mais par rapport à la relation avec le maître, de confiance, de respect. Avant ça, il y a un boulot extrêmement important que généralement en Occident on zappe complètement, la recherche et surtout la vérification. Notre boulot, c'est vraiment de s'assurer que le maître ait les qualités requises pour nous donner ce qu'on cherche. Donc c'est pour ça que je vous parle de, par exemple, là on a déjà entamé deux niveaux. Le niveau du Hinayana, au niveau de la prise de refuge des vœux, et là, du Mahayana. Okay. En Occident, d'expérience, quand je regarde ce qu'on fait, On ne le fait absolument pas. Les critères qui nous sont donnés dans les textes, on ne les respecte absolument pas. On est dans un fonctionnement de foi aveugle qui est une source potentielle de très très grands problèmes. Le Dalai-lama, dans son bouquin, il dit le boulot de l'étudiant, c'est quoi ? Avant de s'engager dans la relation de maître à disciple, c'est de s'assurer que le maître ait les qualités requises. Et il pousse son conseil très très loin, hein, parce qu'il dit en fait, l'étudiant il devrait être comme un journaliste fouineur avec un très long nez, ok, qui va aller encore regarder un petit peu dans les moindres recoins le comportement de la personne, les qualités de la personne, pour s'assurer de manière idéale qu'il ait ces 10 qualités. Okay. Et un tel examen, vous comprenez que ça ne se fait pas en une journée. Hein. Des fois, on va écouter un enseignement et puis oh, incroyable ce maître, il est tellement génial. Et on dit il a toutes les qualités qu'il faut. Mais c'est impossible en juste une journée, par exemple, de s'assurer toutes ces qualités. D'accord ? Dans les textes, en fait, on nous dit que il faut être prêt à passer 12 ans. On n'a plus le temps, mais si, on a le temps. 12 ans pour s'assurer vraiment que la personne a les qualités requises. Parce que, toutes les façons, est-ce qu'on est directement obligé pour suivre des enseignements de s'engager dans la relation de maître à disciple ? En fait, une des questions, c'est, je ne sais plus exactement comment la formuler, mais c'est, non, c'est une des méditations, pardon, c'est réflexion, on l'a appelé la réflexion sur la façon graduelle d'établir la relation de disciple à maître. Donc déjà, on a mis disciple avant de maître pour bien montrer que on a notre part du boulot à faire. Okay? Est-ce qu'on est obligé de s'engager dans une relation de maître à disciple pour aller écouter des enseignements communs du niveau des sutras? Absolument pas. Donc on peut aller écouter encore et encore des enseignements, tirer un très grand bienfait de ces enseignements, transformer notre esprit, passer du temps comme ça avec la personne, etc. Petit à petit, apprendre à la connaître. Ouais. Donc déjà, si elle a vraiment des qualités incroyables de sagesse, même si elle a ses 10 qualités, parce que la personne a ses qualités, on va en bénéficier de toutes les façons. Même si intérieurement, on ne s'est pas encore engagé dans cette relation. Okay ? Donc on peut se transformer. Et ce qui est extrêmement important, et si j'ai une chose à vous dire par rapport à ce sujet, c'est traiter ce sujet avec beaucoup de précaution, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas fait et qui se retrouvent dans des situations très difficiles, très problématiques. C'est la faute, bien sûr, peut-être du maître, qui a pas forcément toutes les qualités requises ou des comportements qui sont pas appropriés, mais c'est aussi la faute, d'une certaine manière, du disciple. Okay. En Occident, il y a des commissions, comment on appelle ça, la commission contre les sectes, en fait. Ouais. Ouais. Quelle différence il y a entre un individu qui décide de prendre un maître bouddhiste, comme ça, juste parce qu'il a un coup de foudre, et quelqu'un qui tombe dans une secte, parce qu'il a aussi un petit peu un coup de foudre. Il est dans un état de détresse, dans laquelle on peut être, ok, et qui cherche des solutions, qui est complètement perdu, et puis qui est devant une personne qui a un très grand charisme, etc. Quelle est la différence entre une telle personne et nous-mêmes qui serions dans vraiment un état de recherche intérieure, etc., de questionnement, et de rencontrer quelqu'un qui est vraiment extrêmement charismatique, etc., qui semble avoir des qualités extraordinaires. C'est un raison, l'autre non. Raisonne. Mais, donc, dans les deux cas, là, non, il ne raisonne pas. Et ce qu'il faut, justement, c'est raisonner. Ce qu'il faut, quel que soit, là où, avant de mettre les pieds quelque part, c'est toujours avoir son sens de discrimination et vraiment d'analyser, de regarder encore et encore, est-ce que la chose est juste, est-ce que la personne... Et pour vraiment, par exemple, là, par rapport à ces 10 qualités, c'est des qualités tellement exceptionnelles qu'il va falloir du temps pour pouvoir s'assurer que la personne... et ses qualités. D'accord ? Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et dans les 10 qualités là que j'ai mentionnées, est-ce que vous voyez le terme Rinpoche ? Son éminence, sa sainteté, son éminence, le grand Tulku Rinpoche, Lama, Geshe. Donc très souvent, j'ai remarqué qu'en Occident, en fait, on est très attiré par les très grands titres, par la renommée d'une personne. Mais est-ce qu'il est mentionné la renommée d'une personne ? Non ? Donc en fait, on ne doit absolument pas porter notre décision, notre jugement sur ces critères de titre, etc., même si tout le monde est dans une euphorie, etc. Ah, c'est un super grand maître, etc. Des fois même, ils connaissent ni Ève ni d'Adam, hein. Mais ils ont entendu des trucs et il a des pouvoirs miraculeux et patati et patata. Est-ce que là, il est mentionné des pouvoirs miraculeux? D'accord? Et ces 10 qualités, c'est pas juste, par exemple, Lama Tsongkhapa, le fondateur de l'école Gelugpa à laquelle le centre appartient, qui les mentionne. C'est le Bouddha Shakyamuni qui les a donnés, qui ont été repris par tous les très grands pratiquants de l'Inde, du Tibet, tous les êtres qui ont vraiment développé toutes les réalisations. Pourquoi dans les textes ils se sont donné autant de mal de mentionner très précisément toutes ces qualités? C'est pour protéger justement le disciple, pour s'assurer que le disciple puisse faire les bons choix par rapport donc à la décision d'accepter quelqu'un comme son maître ou pas. D'accord. Donc après, c'est tout à l'heure une des réactions, ça a été ah 12 ans, c'est, on n'a plus le temps après. Mais si on a tout le temps qu'il faut, à partir du moment où on a vraiment l'intérêt de se transformer intérieurement, etc. On peut déjà avoir accès à tout un ensemble d'outillages qui va nous permettre de nous transformer intérieurement déjà, etc. Ok. Même peut-être d'éclaircir un petit peu notre esprit, qui fera que on sera plus à même de vraiment examiner une personne qui aurait potentiellement les qualités et de voir avec justesse qu'il y ait les qualités ou pas. Parce qu'un autre défaut qu'on fait aussi, c'est bon, d'accord, la personne, elle doit avoir ses 10 qualités. Et puis, en fait, assez rapidement, on va projeter les qualités sur l'autre. Parce que on veut tellement, etc., qu'on idéalise et on dit, ah ben oui. Non, là, on doit avoir un esprit critique, mais qui est pas du tout négatif. C'est un état d'esprit qui est très ouvert et qui regarde encore et encore. La manière d'être de la personne. Ok? Et donc, on va pas se faire un jugement, un avis au bout d'un jour, une semaine, un mois, une année. Non, c'est avec le temps, encore et encore. Force. Ok. Oui, là, effectivement, on peut vraiment voir qu'il y a une stabilité par rapport à ces qualités. Donc, si on regarde ces 10 qualités, actuellement, je pense qu'on peut encore trouver des êtres qui ont ces 10 qualités. Personnellement, par rapport à mon maître principal, j'estime qu'il avait ses 10 qualités. Je dis donc j'avais. Donc ça vous fait une belle jambe parce que mon maître il est plus là. Donc, vous avez pu vous dire bon on va aller un petit peu regarder si effectivement le maître Sixte avait ses qualités, ça va nous simplifier la recherche. Donc non, pas du tout, il est plus là. Donc je pense que vraiment sincèrement c'est possible encore de trouver. Mais ça peut être vraiment difficile de trouver une telle personne. Ça peut être difficile au niveau du karma d'avoir l'opportunité de fréquenter cette personne, d'accord? Un label certifié. Ouais, mais ce label, il est uniquement perceptible par des êtres très très avancés. Donc, Alexis, si tu peux... tiens, d'abord, après, je viens à toi après, Philippe. Le micro... Donc après, c'est un sujet, je pense, extrêmement important pour nous de, dès le départ, avoir une attitude saine par rapport à ça, et on va vraiment pouvoir construire des très belles choses. Donc si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas.
Dans cette mesure même, j'ai l'impression qu'il y a un rapport, de toute façon, de maître à disciple, dans le sens où peut-être on rencontre le maître d'une certaine façon qui nous correspond. Puisque on a le potentiel de créer les causes favorables d'un futur bonheur. Bonheur, rencontre, ou quelque chose qui me corresponde. Dans cette mesure même, si on se trompe de maître, c'est peut-être pas le fait du hasard non plus.
Il n'y a pas de hasard dans le bouddhisme. Oui.
Et en tirer de fait la leçon pour apprendre ce qu'on aurait dû vérifier avant. Enfin, je veux dire, en soi, peut-être que ça s'inscrit dans aussi un processus de cause à effet.
Donc là, c'est clair et net. Pas de aucune contradiction par rapport à ce que vous dites. Par contre, là, j'essaie de vous présenter la manière la plus saine, la plus protégée de procéder. D'accord ? Mieux vous prévenir que guérir. Donc là, on est dans la prévention, bien créer les choses pour qu'on ait le moins de soucis possible. Après, on va voir si quelque chose se passe et comme on l'avait pas envisagé, etc. Si quelque chose va mal, comment faire? Donc là, c'est la guérison. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a différents types de maladies au niveau de la relation maître à disciple. Il y en a qui sont très très lourdes à gérer. Donc si on peut les éviter avec le sens de discrimination, on va les éviter. Et après, ce qu'il faut bien voir, justement, on peut se tromper dans notre démarche par rapport au maître et choisir quelqu'un qui n'est pas forcément qualifié ou etc. Mais ça, c'est en fait la maturation de quel type de cause, positive ou négative. Si on se trompe et qu'on est avec quelqu'un de pas qualifié, négatif. D'accord. Donc c'est le mûrissement d'un karma négatif. Donc il va pas forcément déboucher sur quelque chose de positif non plus. Donc après, si on est capable par rapport à quelque chose de négatif d'en tirer un enseignement, un enrichissement, etc., c'est très très bien. Mais par exemple, moi, pour ma part, dès le départ, je préfère vous préserver de situations difficiles. Hein. Et puis encore une fois, il y a différents niveaux de difficultés dans la relation. Il y a des difficultés qui sont très 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 lourde. Prenez l'exemple de secte, ok? Ouais. Dites-vous que dans le bouddhisme, il y a des choses qui peuvent aller un petit peu, quand même, dans ce sens-là. Là, je vais, aujourd'hui, je vais pas vous faire qu'une vision idyllique et parfaite du bouddhisme. Dans toutes les traditions spirituelles, très souvent, il y a un très très beau message, mais qui est détourné à des fins personnelles par des individus. Et à cause de ça, il y a des choses très très laides. Des choses vraiment pas justes, pas correctes du tout, qui sont faites. D'accord? Donc on revient là, les 10 qualités. Bon, j'ai cherché... Ah, pardon. Claudie, vas-y.
Oui, par rapport au choix du maître, donc par rapport à la renommée. Donc toi, par exemple, tu disais que tu avais un maître dont tu étais sûr de ses qualités. Donc forcément, il y a peut-être 20 personnes qui vont se dire, ben, enfin bon, il n'est plus, mais supposé.
C'est pour ça que je vous l'ai dit, sinon je ne vous l'aurais pas dit.
Qui sont encore. Ah voilà.
Ouais.
Oui, mais enfin, ça se sait. La renommée, quand même, tu vas le dire forcément à certaines personnes autour de toi. Donc est-ce qu'il peut y avoir des maîtres comme ça qui sont finalement sollicités par des tas de personnes? Est-ce qu'un maître peut avoir comme ça des tas de disciples?
Oui. Oui. Ce qui est important, après, de toutes les façons, c'est est-ce que la personne a les qualités? Votre boulot, c'est si vous entendez quelqu'un qui a une certaine renommée, votre boulot, c'est de vous assurer qu'il ait les qualités. Donc, de par le fait qu'il ait une certaine renommée, que vous vous interrogiez plutôt particulièrement à lui de savoir s'il a les qualités ou pas, ça, c'est tout à fait envisageable. Mais votre boulot, c'est vraiment vous assurer qu'il ait les qualités et de absolument pas vous fier juste à cette renommée pour faire votre décision.
Oui, mais si on a vraiment confiance, si toi tu nous dis, ben on va se mettre à l'égalité.
Non, là je dis là, non. C'est vous-même qui devez vous assurer. Parce que moi je peux me tromper. Donc vous pouvez avoir confiance en moi, etc. Mais est-ce que moi je suis libre de perturbations mentales? Non, donc je peux me tromper. Et à ce moment-là, donc je peux vous donner mon avis, mais c'est que mon avis. Et moi, je vous dis après, donc en tant que pratiquant et en tant que personne qui présente même le dharma, je vous dis, je peux à la rigueur vous dire, bon, ben j'ai plutôt un avis favorable par rapport à cette personne. Mais toujours derrière, j'hésite à faire ça parce que je dis, ce qui est extrêmement important, c'est que vous vous assuriez, vous preniez le temps de voir est-ce que la personne a les qualités. Oui ou non. Et que, de toutes les façons, vous êtes pas, parce que vous pouvez me dire, oui, mais on a une précieuse renaissance humaine, on sait pas quand est-ce que va venir la mort, etc., donc il faut se dépêcher. Mais, juste en examinant la personne, vous pouvez avoir accès déjà à tout ce qui est, je pourrais dire, pratiquement nécessaire maintenant à notre développement. Donc après, justement, faire bien ce travail, de s'assurer que la personne ait les qualités. Au niveau du, par exemple, de prendre refuge et de prendre les vœux, là, c'est des qualités qu'on peut vérifier un peu plus rapidement. Donc, je pense que au bout de, si on passe pas mal de temps avec la personne, un an ou deux ans, en demandant aussi à tous les gens qui le connaissent, est-ce que tu as entendu dire qu'il a eu des comportements déplacés ou etc. Est-ce que ces personnes ont vraiment l'impression qu'il a toujours un mode de conduite parfait? On prend l'exemple de Geshe Lodan ici, d'accord? Moi, j'ai passé en gros 4 ans et demi avant Guichet, avec Guichet Laudon. Vous pourriez me dire, est-ce que au niveau de l'éthique, etc., j'étais confronté à une attitude de Guichet Laudon qui, n'allait pas dans le sens de l'enseignement. Donc là, je peux vous dire non. Donc ça, c'est déjà un critère dans votre analyse. Moi, les 4 ans et demi que j'ai passé avec Guichet Laudon, il a toujours eu une conduite par rapport à la loi du karma, etc., par rapport aux négativités essentielles, il a toujours une attitude pure. D'accord? Donc ça, vous pouvez noter. Après, vous prenez le temps aussi de vérifier un petit peu, de confirmer par vous-même, etc. Et puis donc, vous en arrivez à dire, bon, ben, il a une certaine compassion à l'égard des personnes, il a une belle éthique de vie, il a une bonne compréhension du Vinaya, etc., parce qu'il a tout simplement étudié, il est moine et il a étudié. Il a les qualités requises pour conférer le refuge, pour, si vous le souhaitez, vous donner les vœux de laïque. Ok, vous vous engagez. Mais il faut toujours faire le travail, par vous-même. Donc, encore plus un travail plus profond par rapport au maître du Mahayana, parce que en fait, il va nous apporter des choses encore plus profondes. Il doit avoir des qualités encore bien supérieures. D'accord. Donc, on regarde peut-être, on n'a pas trouvé une personne qui avait ces 10 qualités. Donc, il doit en avoir au minimum 5. Manque de peau, c'est pas les plus faciles à développer, ces 5 qualités. Puisque c'est toujours l'éthique, la concentration, la sagesse. Donc, l'esprit est contrôlé, pacifié et complètement pacifié à l'aide de l'éthique, la concentration, la sagesse. La sagesse qui perçoit la vacuité. Zut. On avait des plus simples, quand même. Et puis, en plus, la compassion. Donc, on n'a pas trouvé 10. Bon, ben, on essaye de trouver quelqu'un qui aurait ces 5. Quelqu'un qui, de temps en temps, dit, ah non, là, je suis fatigué, je veux plus enseigner, là. Quelqu'un qui n'a pas forcément une grande connaissance des écritures. Quelqu'un qui n'a pas forcément trop de persévérance. Okay? Donc là, bon, bah déjà, c'est une personne un peu moins exceptionnelle, mais si on regarde quand même, toujours très très exceptionnelle. Donc on n'a pas trouvé, donc on y va au rabais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis là, on va à un niveau vraiment beaucoup 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 moins élevé. Donc la personne aurait plus de qualités que défauts. Ensuite, elle penserait plus aux autres qu'à elle-même. Et en fait, elle penserait plus aussi, elle s'intéresserait plus aux vies futures que celle-ci. Par rapport à la dernière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va mettre vraiment l'emphase sur la loi de cause à effet. Créer les causes de bonheur futur plutôt qu'une recherche d'un bonheur ici maintenant. Donc cette personne, automatiquement, elle va être un exemple pour nous de mettre l'emphase sur la moralité, la loi de cause à effet. D'accord. Ensuite, penser plus aux autres qu'à soi-même. C'est que dans l'ensemble, elle va avoir une attitude plus altruiste qu'égoïste. Donc là encore, ça va être une source, un exemple, une source d'inspiration pour nous d'avoir cette attitude d'altruiste qui est le fondement un petit peu l'attitude du Mahayana. Okay. Et ensuite, dans la balance, il a des défauts, il a des qualités, mais il a plus de qualités, donc c'est ce qui va nous influencer le plus. Et ça devrait vraiment être vraiment le choix d'un maître quand on a épuisé un petit peu toutes les autres ressources. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Françoise, non, on commence pas par minimum, intermédiaire, non, on commence par vraiment le maître idéal, surtout qu'il y en a encore. Okay. Et puis, donc, si on ne trouve vraiment pas, on va aller un petit peu en diminuant. Donc voilà un petit peu pour le maître au niveau du Mahayana. Ensuite, il y a une autre relation avec un maître qui est au niveau du Tantra. Donc on rentre dans un troisième niveau, vraiment de la relation du maître à disciple, Hinayana, Mahayana et du Tantra. Oui, avec le micro Mabel, s'il te plaît. Mabel.
Vu que nous avons toutes ces perturbations mentales et les voiles et tout ça, est-ce qu'il faut déjà pour prendre cette décision, pour voir clair une personne, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il faut avoir une relation personnelle, déjà avoir des entretiens, parler avec lui, ou on peut juste observer
Si tu as des entretiens, c'est tout aussi bien, tu peux. Plus tu peux avoir une connexion un petit peu rapprochée avec la personne, une relation rapprochée avec la personne, plus tu vas peut-être pouvoir l'examiner, quand même. Mais il faut le faire avec...
C'est nécessaire.
Si tu vois la personne dans la vie de tous les jours un petit peu, c'est un terrain d'examen qui est très propice, je pense, pour se faire une bonne idée aussi. Parce que quand la personne est juste assise dans une goupa à dire des belles paroles, etc., donc la personne, elle peut être un très beau parleur, etc., et puis elle nous embobine bien, on pourrait dire, et puis après, ce qu'elle fait en dehors, on va pas être au courant. Donc c'est bien de regarder après vraiment le mode de vie de la personne. Okay, donc si vous avez l'occasion d'aller pique-niquer avec la personne, d'aller prendre le thé avec la personne, de l'interroger sur différents sujets pour voir justement si elle base sa manière de vivre sur l'éthique, etc. Oui, c'est bien. Si vous passez du temps avec la personne justement en dehors et que vous voyez qu'elle se met en colère tout le temps, etc. Bon, ben c'est sûr que au niveau des trois premières qualités requises, elles sont pas là, par exemple. Donc non, c'est bien. Et le Dalai Lama, il dit une personne vraiment qualifiée, en fait, elle ne devrait avoir absolument rien à cacher. Donc on pourrait être à n'importe quel moment avec elle si elle était pleinement qualifiée. On pourrait être à n'importe quel moment avec elle. On la prendrait jamais au dépourvu dans une situation embarrassante pour elle-même, puisque son mode de vie serait dans une éthique absolument parfaite, un mode de comportement absolument parfait. Donc là, le Dayama, non, il a dit, il faut être fouineur. Donc c'est pas juste fouiner quand la personne est dans la gompa à donner des enseignements ou quoi que ce soit. Non. Après, juste donc par rapport au tantra. Si je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire que vous les notiez, parce que bon, c'est peut-être pas forcément d'actualité, mais je vais vous les citer, comme ça vous avez une source, ok, à laquelle vous pouvez vous référer. Donc souvent dans des textes, on va dire il doit avoir 2 sets de 10 qualités, mais dans les textes les plus détaillés, en fait, on dit en général il doit avoir 13 qualités, le maître, au niveau du tantra. Quelles sont ces 13 qualités? Il doit avoir des actions du corps, de la parole et de l'esprit qui sont complètement contrôlées par la pratique de la discipline morale. Il doit s'abstenir complètement des dix actions négatives, communes. Il doit avoir une très grande sagesse. Il doit avoir les 3 types de patience, de ne pas répondre, par exemple, à quelqu'un qui l'agresserait de manière violente. Ensuite, il doit volontairement endurer les souffrances, par exemple, par rapport à la pratique, etc. Et puis, il doit être patient par rapport au fait de penser à des sujets difficiles tels que la vacuité, etc. Il doit être honnête, dans le sens qu'il ne doit pas prétendre avoir des qualités qu'il n'a pas. Parfois, il y a des maîtres. Donc traditionnellement, surtout dans l'école Gelugpa, il y a des maîtres extrêmement réalisés, on sait rien de leur réalisation. Et dans la coutume, dans la transmission orale des enseignements, on dit nos réalisations doivent être comme une flamme d'une lampe qui est à l'intérieur d'un récipient que personne ne pourrait voir extérieurement. Donc si les qualités sont telles, sans le vouloir, ça déborde. Un petit peu, on s'aperçoit de ça, d'accord? Mais de lui-même, la personne, il fait rien pour se vanter ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez un maître qui arrive et qui dit moi j'ai pour... Ça existe. Il y a quelqu'un, par exemple, dans la salle qui a rencontré une personne qui disait elle a beaucoup de pouvoir, etc. Ou dans la vie passée. Donc, c'est un maître avec un grand titre, mais ils se vantent comme ça. Pour moi, par rapport à tous les maîtres authentiques que j'ai rencontrés dans cette école, ça, c'est pas vraiment un bon signe. D'accord? Ensuite, donc, il doit être honnête dans le sens de ne pas vouloir tromper autrui. Il doit avoir une connaissance des rituels et des pratiques qui sont expliquées dans les textes tantra. Il doit avoir une très grande compassion. Donc, la grande compassion, c'est vraiment la compassion qui implique absolument tous les êtres sans la moindre exception. Ensuite, une compréhension extensive, des trois collections des enseignements. Donc, quelles sont ces 3 collections d'enseignements? C'est ce qu'on appelle le Tripitaka, les 3 corbeilles, du Vinaya, des Sutras et de l'Abhidharma. Donc, des textes, qui traitent de tout simplement la moralité et la loi de cause à effet, des textes qui mettent surtout l'emphase sur le développement de la concentration et enfin de la sagesse. Donc, les 3 corbeilles qui traitent des 3 entraînements supérieurs. Ensuite, il doit avoir les 10 qualités extérieures et les 10 qualités intérieures qu'on va mentionner après. Il doit être expert dans la construction et dans la visualisation des mandalas. Donc, entre autres, par exemple, les mandalas de sable, là, comme les moines de Serra ont fait. Donc, ils doivent pouvoir les faire, vraiment, mais aussi les visualiser. Ensuite, il doit être extrêmement habile à expliquer les textes du mantra secret, ou donc des tantras, une très grande expérience du tantra, et enfin, avoir complètement contrôlé son esprit avec les trois entraînements supérieurs, moralité, concentration et sagesse. Donc, voilà les 13 qualités. Et là, je vous ai dit, il y a donc deux sets de 10 qualités, les qualités extérieures et intérieures. Quelles sont ces qualités extérieures, les 10? Donc, encore une fois, expertise dans le dessiner et construire les mandalas. Donc, c'est-à-dire d'abord tracer les lignes sur la planche sur laquelle on va faire le mandala. Ensuite, extrêmement habile dans visualiser le mandala. Ensuite, il doit être, donc il y a trois pratiques là, trois qualités, je vais pas c'est un texte qui est en anglais, je vais pas les traduire, parce que c'est par rapport, en fait, dans le tantra, il y a deux stades. Il y a ce qu'on appelle le stade de génération, où on visualise, on entraîne l'esprit à avoir une attitude complètement pure au niveau de l'imagination. Les textes rituels qui sont faits pour faire ça sont découpés en trois parties. Il doit être spécialiste, maîtriser complètement ces trois parties, d'accord. Donc là, ça fait déjà 5 en plus, donc on en est à la 7e. Il doit être expert dans la danse de la terre. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, l'initiation de Kalachakra, déjà des films. Vous voyez ces moines qui sont vêtus de vêtements avec très belles brocades, avec une couronne, etc., avec une cloche et un dorje, et ils dansent. Donc pas les danses avec les masques terrifiants, etc., non. Des danses où les moines chantent un rituel. Donc il doit être expert dans cet aspect-là. Ensuite, il doit être expert dans l'offrande, donc une danse en général, dans la récitation du mantra, et dissoudre le mandala qu'il avait généré. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça. Un jour, peut-être qu'en fait, vous allez rechercher quelqu'un qui est vraiment qualifié au niveau du tantra, il devra avoir ses qualités. Les 10 qualités intérieures maintenant. Expertise, toujours dans la visualisation du cercle de protection pour éliminer les obstacles. C'est-à-dire que là, le maître va en fait prendre soin du disciple et créer un environnement extrêmement conducif, on dit, porteur. C'est l'anglais, oui. Un anglicisme, excusez-moi. Porteur. Donc pour bloquer toutes les interférences extérieures qui pourraient intervenir. Il doit être extrêmement compétent dans le dessin et la bénédiction des amulettes, on dit, des amulettes de protection. Par exemple, là, les moines de Serra, dans les petits objets qu'ils vendent, il y a ces petites amulettes de protection. Donc c'est au niveau des rituels, un dessin de mantra ou de petits mandalas, etc., pour protéger les individus. Ensuite, il doit être expert, une très grande expérience dans la conférer à ce qu'on appelle l'initiation du vase et l'initiation secrète. Ensuite, il doit être expert dans conférer l'initiation de la sagesse exaltée, expert dans la fait de conférer l'initiation du mot. Là, en fait, dans une initiation du plus haut niveau de tantra, il y a 4 initiations. Il doit être vraiment expert pour conférer ces 4 aspects. Il doit être habile à pratiquer les actions courroucées quand c'est requis. Parfois, il y a vraiment des obstacles un petit peu insurmontables. Là, le maître, pour dissiper ces obstacles, il faut qu'il prenne un aspect un petit peu fort, un petit peu courroucé, pour faire le ménage. Il doit être expert dans dans le lignage des tormas authentiques, pour faire les tormas au niveau authentique. Donc aussi expert au niveau de l'utilisation des couteaux rituels, etc. Habile à réciter les mantras, habile à donner les bénédictions, habile à construire et faire les offrandes au niveau des mandalas. Voilà, donc vous voyez que au niveau du tantra, en gros, il faut qu'il ait toutes les qualités d'un maître du Hinayana, du Mahayana, et encore bien, bien, bien plus. Il en existe, mais là encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se prétendent être capables de formuler, de donner des initiations, etc. Donc oui, ils sont capables de lire le texte, de faire quelques visualisations, mais est-ce que vraiment ils confèrent l'initiation ? Non. Et pour vraiment donner une initiation complète, le Dalai Lama a dit au moins à une reprise que vraiment pour être capable de donner, donc la première initiation, deuxième initiation, troisième initiation, pas forcément, mais la dernière initiation, seul véritablement un Bouddha est capable de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière initiation explique exactement comment unifier les deux vérités conventionnelles et ultimes. Donc la vérité ultime, manque d'existence intrinsèque de tous les phénomènes. L'aspect conventionnel, c'est comment les choses apparaissent en dépendance de causes et conditions, en interdépendance, etc. Quelle est la seule personne qui est capable de voir ces deux vérités simultanément, directement ? Un Bouddha. Donc seul un Bouddha est capable de transmettre cette compréhension parfaitement. D'accord. Donc après, par exemple, donc je vais prendre l'exemple de mon maître. J'ai reçu des initiations de lui. Est-ce que il a manifesté vraiment être un Bouddha? Non, il a manifesté être une personne ordinaire et puis petit à petit développer des qualités extraordinaires. Donc est-ce qu'il donnait des initiations? Oui. Est-ce que donc il était vraiment, il montrait il manifestait avoir cette capacité de voir les deux vérités ensemble? Non. Donc quand il donnait la quatrième initiation, il donne quelque chose qui s'en rapproche un peu. Okay. Mais c'est pas la véritable quatrième initiation. Donc, encore une fois, vraiment là, par rapport à ce point-là, notre boulot, c'est donc on remet un peu de côté le tantra, parce que là, je vous ai juste donné, parce que peut-être qu'à un moment ou un autre, vous allez être confronté à vous dire peut-être qu'il faut que je fasse un choix. Donc là, je vous ai donné les qualités requises. Mais pour ce qui nous concerne, c'est beaucoup d'entre vous, par exemple, vous n'avez pas pris refuge. Donc, littéralement parlant, vous n'êtes pas encore bouddhiste. Peut-être que dans votre cœur, vous l'êtes déjà un petit peu, beaucoup. Peut-être qu'un jour, vous allez vouloir officialiser cette attirance due à une compréhension par rapport au bouddhisme, par la prise de refuge. Votre boulot, ça va être avant tout de vous dire, donc, ok, la personne qui doit me donner le refuge doit avoir les qualités. Au niveau du FPMT, c'est relativement... vite vu, mais bon, il faut quand même vérifier parce qu'après les gens respectent pas forcément les règles, mais les personnes autorisées reçoivent l'autorisation de l'Amazopa Rinpoche qui estime que vraiment donc ils ont les qualités requises pour ça. Mais même si l'Amazopa donne l'autorisation aux geishés, etc., aux lamas, parfois à des laïcs de faire ça, notre boulot c'est d'examiner, d'accord. Malheureusement, moi j'ai vu beaucoup, très souvent, des fois des personnes qui connaissent rien au bouddhisme. Et une cérémonie de refuge, et c'est un jour extrêmement auspicieux, le jour des miracles, qui est passé par exemple il n'y a pas longtemps, ou le jour de l'illumination, une commémoration de l'illumination du Bouddha, ou le jour où il a donné son premier enseignement, etc. Et des gens, ils connaissent rien au bouddhisme, et ils vont, et ils prennent refuge, et ils ressortent, et ils sont contents, ils ont un nom tibétain, parfois, parfois non. Ça rime à pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un refuge dans le cœur? Rien du tout. Donc il y a une connexion qui est faite peut-être avec une personne avec certaines qualités, peut-être connexion faite un petit peu avec le bouddhisme, mais pratiquement insignifiante, d'accord. Il n'y a pas de vérification, nous demande Myriam, de la part du centre ou de la personne. Dans certains endroits, oui. Dans certains endroits, non. De par la culture tibétaine, les Tibétains, eux, c'est tellement dans leur culture qu'un maître, on lui demande de prendre refuge. Il va dire, ah ben oui, c'est bien sûr, c'est tellement auspicieux, c'est tellement de mérite, etc. Il va la donner. Okay? Mais cette culture tibétaine, elle n'a rien à voir avec la culture occidentale. Et cette manière de faire à la tibétaine n'est absolument pas adaptée à la manière occidentale de faire. Et par exemple, il y a un geishé à Londres, Geshe Tashi, qui lui, si une personne donc veut prendre refuge, il manifeste un certain contentement, dire c'est bien. Mais avant de prendre refuge, avant qu'il confère cette prise de refuge, il demande à la personne justement un entretien, donc il est très diplomate. Donc il dit pour voir si effectivement du côté de la personne, elle se sent prête à prendre refuge. Et puis après, de son propre côté, voir si lui il se sent confortable de donner cette prise de refuge. Donc là, il y a un petit peu justement une adaptation parce qu'il vit depuis très longtemps en Occident, il a bien compris le fonctionnement occidental, donc il essaye de construire quelque chose d'une manière très très saine. La prise de refuge, c'est vraiment se dire je comprends ce qu'est le bouddhisme est la voie qui me convient et il faudrait arriver à cette décision en ayant fait surgir un petit peu tous les doutes qu'on aurait pu avoir par rapport au bouddhisme. Et à ce moment-là, ça devient le moment opportun pour prendre refuge, donc s'engager dans cette relation de maître-disciple. Donc encore une fois, Là, ça, c'est bien, ça me permet de voir que j'étais en train d'oublier quelque chose. De premier niveau là, relation complètement d'humain à être humain, une personne qui est un ancien, un abbé, qui doit être un bon exemple. Ok. La relation au niveau du Mahayana, qu'est-ce que ça implique? Donc encore une fois, dans les textes, très souvent on va dire, le maître doit être vu comme un Bouddha. Et donc si on ne fait pas attention à ce que ça veut dire, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Parce que tout ce que dit le maître, en fait, on va dire, bah, c'est comme si c'était le Bouddha qui le disait. Donc le Bouddha, il y a des gens, il fonctionne comme ça, hein, il est omniscient, donc il sait tout, donc ce qu'il dit, c'est parfait. Donc le Dalai-lama dit, non, ça ne veut absolument pas dire ça du tout. Dans les textes, quand il est dit voir le maître comme le Bouddha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau karmique, au niveau donc de la relation de cause à effet, la personne donc qu'on prend comme maître au niveau du Mahayana, qui va nous conférer par exemple les vœux de bodhicitta. Cette personne, ce support, au niveau karmique, tout ce qu'on va générer par rapport à lui va avoir un poids énorme, va avoir la même valeur karmique, on va dire, que si on faisait quelque chose envers un Bouddha. Ça ne va absolument pas dire que la personne est un Bouddha, mais si je fais une offrande à cette personne, les mérites que je vais accumuler en faisant cette offrande à cette personne seront les mêmes que si j'avais fait l'offrande directement au Bouddha. Si je commets un acte négatif à son égard, c'est comme si je commettais un acte négatif à l'égard d'un Bouddha. À rien de plus. Est-ce que dans les 10 qualités du maître Mahayana, il était mentionné qu'il est omniscient? Non? Ben alors c'est pas un Bouddha. Un Bouddha, il est omniscient. D'accord? Donc là, il faut bien remettre un petit peu les choses en place. Et là, peut-être que vous avez l'impression que je suis un peu encore à revenir encore et encore sur ça. Mais pourquoi? C'est parce que pendant très longtemps, et encore maintenant en Occident, de par la manière d'aborder du sujet traditionnel des Tibétains, c'est absolument pas du tout présenté donc de cette manière, et on met vraiment l'emphase sur le maître doit être vu comme un être parfait, et même très souvent comme un Bouddha. Donc très souvent, il y a des gens qui se sont lancés dans cette relation avec cette manière d'être intérieur, et ça a entraîné beaucoup de problèmes. C'est quelque chose qui n'est pas adapté à nous en tant qu'occidentaux. D'accord? Donc le Dalai-lama, il se donne la peine justement de bien remettre tout dans leur contexte particulier. Donc au niveau du Mahayana, quand on lit dans des textes le maître doit être vu comme un Bouddha, c'est dans le sens, au niveau karmique, mes actions à son égard ont le même poids qu'envers un Bouddha. Rien de plus. Donc si le maître a une attitude qui n'est pas correcte, d'une manière respectueuse, là encore, on peut lui faire remarquer, d'accord? Et ce serait peut-être l'aider. Surtout si on a pris un maître qui n'a pas tous les 10 qualités, il est possible qu'il soit dans l'erreur. Okay? Il est peut-être possible qu'il commette des actions négatives. Donc si on lui dit, là c'est peut-être pas tout à fait juste, et que à cause de ça, il prenne conscience et il redresse un petit peu la barre, c'est aussi l'aider, d'accord? Au niveau du tantra, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la relation du maître au niveau du tantra, le Dalai-lama dit, elle est réservée à des êtres exceptionnels, et il donne des exemples, et les exemples, c'est tout simplement des exemples de très grands mahasiddhas indiens ou tibétains. Donnez-moi des exemples, un petit peu, de très grands maîtres du passé. Shantideva, par exemple, ouais. Tibétain, très grand yogi tibétain, qui a écrit des chants. Milarepa. Donc Milarepa, c'était le maître de, le disciple de Marpa. Okay. Et en fait, il dit que la relation telle qu'elle est décrite dans les textes au niveau du tantra entre le maître et le disciple, elle est avant tout réservée à des êtres de ce calibre-là. Donc un être, je vais prendre mon exemple comme moi qui balbutie, etc. Il faut pas que je me projette. Il faut que je reste là où je suis, avec ce que je suis, que je sois réaliste, et que tout simplement, je me place dans une relation de maître à disciple par rapport à là où j'en suis. Donc, au niveau du Hinayana, à la rigueur, au niveau du Mahayana, mais pas au niveau des tantras, d'accord? Et au niveau des tantras, comment est-ce qu'on voit le maître. Là, on le voit effectivement vraiment comme un Bouddha. Mais on ne se limite pas à ça. Dans les textes tantriques, on nous dit il faut tout voir, tous les êtres, comme la déité, donc comme un Bouddha. Tout l'environnement comme un environnement complètement pur. Dans le bouddhisme tibétain, dans le contexte tantra, on dit on doit tout le voir comme le mandala. Okay? Donc ce serait absurde de voir tous les êtres comme la déité, le Bouddha, et puis notre maître, lui on le voit comme un être ordinaire. Là ce serait complètement absurde. Mais en fait, ici et maintenant, un vrai pratiquant du tantra, il regarde tout ça, et à un premier niveau, il s'entraîne à développer une vision complètement pure de chacun de nous comme étant un Bouddha. Ça veut dire qu'on est un Bouddha? Ben non. Est-ce que vous êtes omniscient? Non. Est-ce que je suis omniscient? Non. Donc on n'est pas des Bouddhas. Pas encore. On va le devenir un jour, à force. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cet enseignement? Ben tout simplement, là, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Bon, je vais essayer. On a vu hier encore, et puis depuis le début d'une découverte du bouddhisme, pour ceux que je rencontrais avant, encore et encore, je répète la même chose. Quelle est l'essence de ce que nous sommes au niveau de l'esprit? L'esprit de claire lumière, l'esprit le plus subtil, l'esprit donc qui est complètement au-delà de toute perturbation mentale, qui est complètement immaculé, qui n'est pas souillé par ses perturbations mentales. État d'esprit qui est grande félicité. Est-ce que cet état d'esprit, il existe de manière intrinsèque ou il est vide d'exister de manière indépendante d'intrinsèque? On parle de la vacuité de cet esprit. D'accord? Donc, il y a cette base qui est immaculée. Il y a ce mécanisme d'ignorance qui apparaît sur cette base. De l'ignorance, tout devient contaminé. On développe de l'attachement, de l'aversion, etc., qui nous pousse à agir. Et tous ces mécanismes sont des facteurs extrêmement importants qui créent tout notre environnement, tout ce que nous sommes. Vous êtes d'accord ou pas? Je vous ai pas perdu encore? Pas trop? Oui. Avec le micro, s'il vous plaît.
Est-ce qu'un Bouddha, à un moment donné, peut avoir ce basculement? Ce moment d'ignorance qui va...
Non.
C'est plus possible.
Non. Donc même avant d'atteindre la bouddhité, un être qui obtient le nirvana, il a développé une sagesse à un tel degré que cette sagesse a détruit toutes les perturbations mentales, plus jamais elles ne peuvent réapparaître. D'accord? Un Bouddha, non seulement il a détruit ça et leurs graines, comme un arhat, donc quelqu'un qui atteint le nirvana, mais il a développé un état d'esprit omniscient, il a un amour et une compassion illimitée à l'égard de tous les êtres, et cet état est complètement irréversible. Toutes les qualités d'un Bouddha ne peuvent jamais dégénérer. Ce qu'il faut savoir après, c'est qu'un Bouddha, nous on ne perçoit à la rigueur que des émanations de Bouddha, mais c'est pas le Bouddha, c'est juste qu'une émanation d'un Bouddha qui peut prendre un aspect plus ordinaire.
Alors j'ai une petite question, je sais que un moment d'ignorance précède un moment d'ignorance, mais puisque l'esprit est grande félicité, pure reconnaissance...
Donc l'esprit le plus subtil.
Le plus subtil. Donc ce petit basculement est bien un début.
Non.
Alors c'est là que je...
Donc il faut juste tout simplement s'appuyer. C'est parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de raisonner comme ça. Pour nous occidentales, de dire il n'y a pas de début, ça nous pose un petit peu un problème. Et il faut juste encore et encore réfléchir sur ce principe cause et effet. Un effet provient toujours d'une cause. D'accord? La cause de quelque chose, si on regarde, en fait, c'est un effet déjà en soi. Donc il doit dépendre simplement d'une cause.
Et, oui.
Et il ne peut pas y avoir une cause, automatiquement, c'est quelque chose qui est composé, qui va se transformer pour donner son résultat. Il ne peut pas y avoir une cause qui ne proviendrait de rien. Donc après, au niveau bouddhiste, justement dans les écoles philosophiques, on va débattre contre les non-bouddhistes. Et donc, si je me rappelle bien, dire qu'il y aurait une cause première, ça voudrait dire que la chose, par exemple, est issue, est produite de soi-même. Et donc, là, si la chose est produite de soi-même, ben, il n'y a pas besoin d'y avoir de production. Et s'il y avait production, si elle était produite à partir de soi-même, elle pourrait être produite à l'infini, de nouveau, encore et encore et encore, comme ça. Donc, avec ce genre de réflexion, on analyse et on comprend que quelque chose qui existerait en soi, ok, n'est pas possible, et quelque chose qui existerait en soi ne peut pas produire autre chose. Non, même pas. Et en fait, si quelque chose existe, et si elle est composée, automatiquement, elle va dépendre d'autre chose auparavant. Et pourquoi on a une difficulté? C'est tout simplement, dans le formatage de notre esprit en tant qu'occidental, on nous a toujours mis un petit peu les limites, et une limite première. Après, donc, on réfléchit et on essaie de voir l'absurdité de ça. Et après, ça va nous poser un petit peu un problème jusqu'à partir du moment où on aura suffisamment réfléchi. Parce qu'au niveau logique, bon, ben, que quelque chose qui existe, qui soit composé, automatiquement soit produit et donc doit dépendre d'une cause qui le précède, c'est simple. Et après, c'est juste, viens voir que la cause elle-même, elle est faite quelque chose. Donc, il doit y avoir quelque chose auparavant. Et à force juste de réfléchir comme ça, ça va nous devenir complètement normal de dire, ben oui, en fait, il n'y a pas forcément un début absolu. Automatiquement, il y aurait eu quelque chose avant. Et c'est juste une question de familiarisation, après. Donc, après, où est-ce que j'en étais? Avant de... Vous savez plus. Alexis, fais un retour en arrière pour voir où j'en ai. Donc on était en train de parler du maître, hein, du tantra. Ah voilà. Donc en fait, j'en étais resté à dire, pour nous, il y a cette base qui est immaculée, qui n'est pas souillée. Okay. Il y a ce développement d'ignorance, il y a ce développement des perturbations mentales, il y a ce développement, donc au bout du compte, de quelque chose de complètement contaminé qui est synonyme de souffrance. Au niveau, dans un premier niveau, un premier temps, au niveau du tantra, qu'est-ce qu'on va faire? On va comprendre que tout ça n'est que l'expression qui se développe à partir de cette essence, de cette base. Mentalement, on va retourner à cette base. Mentalement, on va associer cette base à de la sagesse. L'esprit le plus subtil, donc qui est immaculé mais en soi est neutre, est le support pour aussi bien ce qui est positif que négatif, on va le rendre positif parce qu'on va l'associer complètement à la sagesse. Et on va apprendre mentalement à faire apparaître quelque chose qui s'élève de la sagesse par amour et compassion. On remplace ce mécanisme contaminé d'ignorance, d'attachement, d'aversion, d'action contaminée très souvent négative, par tout d'abord mentalement un exercice de visualisation, etc., par quelque chose de pur. Vous me suivez ou pas? On se reconditionne en changeant des paramètres et en enlevant les paramètres négatifs pour les remplacer par des paramètres positifs. Donc là, le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce mécanisme au niveau négatif, ignorance, attachement, aversion. Okay? Donc ça nous paraît un petit peu abstrait ce qu'on est en train de faire. Mais ce mécanisme, il est bien réel. Si on avait suffisamment d'attention, de focalisation, de concentration, on pourrait le voir. Tous ces mécanismes inconscients deviendraient conscients. Par exemple, si on veut vraiment vérifier ça, ben, attelons-nous à développer vraiment la concentration, une introspection, et on va s'apercevoir de plus en plus de ces fonctionnements d'ignorance. Je prends mon exemple tout bête. Donc, j'ai rencontré le bouddhisme, j'ai commencé à étudier, et puis on m'a parlé de l'ignorance, l'ignorance, l'ignorance. Donc je m'en suis fait une image mentale, j'avais une certaine compréhension intellectuelle, puis j'ai commencé à essayer de regarder en moi, et de voir. Donc, dans les textes, ils nous montrent des expériences, des événements de notre vie, où cette ignorance, elle est très très grossière. Donc là, j'arrive à la reconnaître. Ah oui. Et à force d'essayer de me concentrer un petit peu, de regarder à l'intérieur, d'observer la qualité de mon esprit, etc., je m'aperçois, en fait, qu'il y a des niveaux un petit peu plus subtils. Encore un petit peu plus subtils. À force, à force, à force, à force, on voit qu'il y a des niveaux de plus en plus plus subtils. Et au bout du compte, peut-être, on arrivera à ce niveau le plus subtil d'ignorance qui vient juste recouvrir l'aspect le plus subtil, là, de la conscience. Pourquoi de temps en temps j'essaye de vous donner des petits exemples où on pourrait faire l'expérience de l'esprit de clair lumière le plus subtil? C'est justement pour rendre un petit peu plus réel tout ce qui est mentionné dans les textes, d'accord? Et donc plus on va essayer justement de le baser sur une certaine expérience, une certaine réalité, plus ça va avoir un très grand sens. Et d'un point de vue bouddhiste, au niveau des tantras, en fait, ce que je suis ici maintenant, c'est uniquement et simplement qu'une projection de mécanismes mentaux sur la base de l'esprit le plus subtil. Malheureusement pour moi, je suis une projection construite sur la base de l'ignorance. Là, dans le tantra, dans un premier temps, on apprend mentalement, même déjà à des niveaux grossiers, à fonctionner autrement, à fonctionner consciemment autrement. C'est-à-dire, j'apprends à me mettre dans un état qui se rapproche de la sagesse. Au niveau de compréhension de sagesse, ok, je m'y mets. Je me mets aussi dans un état mental où je comprends que toutes mes pensées, c'est que l'expression de mécanismes qui sont construits sur cette base immaculée de l'esprit. Donc j'essaye de me faire une image de ce qu'est cette base de l'esprit, le plus subtil. J'essaye donc après d'être dans un état de sagesse par rapport à la compréhension que je peux avoir. Et après, pourquoi je vais manifester quelque chose? Juste par amour et compassion, en essayant de ne pas me départir de la sagesse. Et donc automatiquement tout ce qui va se construire va être construit sur cette sagesse, donc quelque chose qui n'est pas contaminé, là juste au niveau de l'imagination mentale, quelque chose qui est uniquement construit sur l'amour et la compassion. Tout ce que je vis n'est que le reflet de ce que je suis intérieurement. Avant j'étais ignorant, etc. Là, juste au niveau de l'imagination, je suis dans un état de sagesse. Tout à l'extérieur, je vais apprendre à le regarder comme étant l'expression de la sagesse, l'expression de l'esprit le plus subtil, la grande félicité. Tout devient pur. Les êtres, pour moi, l'image ou l'expérience que je veux, l'expérience que je vais en avoir d'eux, va être une expérience pure. C'est pour ça qu'on dit tous les êtres sont la déité, l'environnement est la déité. Donc, bien sûr, le maître aussi est la déité. Donc au niveau des tantras, quand on dit le maître et le Bouddha, toutes ses actions sont parfaites, c'est dans ce sens-là. C'est pas dans autre chose. Okay? Donc si le maître, au niveau des tantras, vraiment avait une attitude très négative, on pourrait lui faire remarquer encore. Et donc là, je dis au niveau des tantras, dans un premier temps, c'est au niveau de l'imagination. Dans un deuxième temps, c'est plus de l'imagination. Dans un deuxième temps, tout ce qui nous anime, toutes les énergies grossières qui nous animent, on les redissout dans l'aspect le plus subtil. L'esprit de clair-lumière. On associe cette expérience, on utilise cet esprit de clair-lumière pour réaliser directement la vacuité. On génère après des formes pures pour le bien de tous les êtres. Et notre perception est une perception là, en réalité, qui est une perception basée sur l'esprit de clair-lumière, basée sur la sagesse, etc. Tout ce que nous expérimentons est réellement complètement pur pour nous-mêmes. Et là, il y a un très grand paradoxe. Donc c'est un petit peu un casse-tête chinois pour essayer de les faire, les voir comme complémentaires. C'est, on va voir un être comme, notre expérience va être une expérience complètement pure de l'être. Mais est-ce que du côté de l'être, ça veut dire par exemple que de son côté à lui, il est pur? Non, il peut être sous le mécanisme de l'ignorance. Il peut être dans un mécanisme d'ignorance, d'attachement, d'aversion. Un Bouddha, il va avoir une expérience complètement pure de cette réalité. D'accord? Donc vous voyez pourquoi là, la relation du maître avec le tantra et voir le maître, toutes les actions du maître comme pures, etc., c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre dans le contexte, et c'est quelque chose qui s'applique par rapport aux pratiques là, juste que je viens de vous présenter. D'accord? D'autre part, ce sera peut-être là où on en reprendra un petit peu, dans les textes, en fait, certains textes, j'ai trouvé un seul texte d'un très très grand lama tibétain qui était un peu un spécialiste des quatre écoles tibétaines, il parle des faux maîtres. Parce que là, on est en train de parler du tantra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des maîtres qui mettent beaucoup l'emphase sur le tantra. Dans le tantra, entre autres, donc, il y a vraiment cette emphase qui est mise sur voir toutes les actions du maître comme parfaites, etc., etc. Entre autres aussi, dans le tantra, il y a parfois les différentes énergies qui sont utilisées, entre autres, les énergies sexuelles, etc. Donc, en fait, après, ça peut déboucher sur vraiment des dérives. Et donc, après le déjeuner, on va voir que donc il y a des très très grandes dérives qui sont possibles, donc il faut être extrêmement vigilant. On se retrouve à 3h. Je vous souhaite un très bon appétit. À tout à l'heure.